C'est six comme 6 mois de conflit, puisque c'est le 24 février que Vladimir Poutine avait déclenché ce qu'il appelait l'opération militaire spéciale pour dénazifier l'Ukraine, et ce qui était en fait une invasion. Général Pellistrandi, ça fait près de 2 mois maintenant que le front ne bouge plus, qu'il est comme figé. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, les armées des deux côtés sont pratiquement au bout du rouleau. Les Russes n'arrivent plus réellement à progresser. Ils grignotent un petit peu dans le Donbass. Au sud, du côté de Kherson, eh bien, la résistance ukrainienne est forte. Mais de l'autre côté aussi, les Ukrainiens, eh bien, au bout de 6 mois de guerre, ils sont aussi fatigués. Les deux armées sont fatiguées. Avec un point particulier, c'est que les Ukrainiens, eux, restent très motivés parce qu'il s'agit de défendre leur territoire et que de l'autre côté, eh bien, les Russes ont beaucoup plus de mal donc à être motivés. Et on voit avec le chiffre que vous avez dit, donc de 80 000 soldats russes morts, blessés, disparus, prisonniers, que ça devient catastrophique pour Poutine.
On peut penser, Trio, que c'est aussi en raison de ce chiffre impressionnant du nombre de décès côté russe qu'il peut y avoir une sorte de... Je dirais pas de pause, parce qu'il y a toujours, bien sûr, les canons qui tonnent, notamment dans le Donbass, mais que le conflit aujourd'hui est gelé.
C'est-à-dire que je ne vois pas beaucoup de perspectives de paix, parce que pour mettre fin à un conflit, il faudrait des pourparlers de paix. Or, comme il vient d'être dit, du côté ukrainien, on est vraiment déterminé à récupérer les territoires volés. Hein, c'est ouais. Plus de 20% du territoire ukrainien, et pas seulement les territoires pris par les Russes depuis l'agression de février dernier, mais aussi la Crimée et la partie du Donbass qui avait fait l'objet d'une sécession en 2014. Donc on voit l'ambition est forte. Certes, il y a l'aide occidentale, militaire, américaine, européenne d'un côté. Et du côté russe, on imagine mal, vu le degré d'engagement de Poutine dans cette folle aventure, pour quel motif, aujourd'hui, il accepterait des pourparlers de paix. Parce que ces pourparlers de paix signifieraient, logiquement, le retrait, au moins partiel, de troupes russes. Alors, comme il vient d'être dit qu'on a un équilibre des forces, en tout cas dans la période actuelle, on ne voit pas de perspective de paix. D'où le risque d'un conflit qui va geler. Et alors, peut-être jusqu'à l'année prochaine, mais peut-être plus longtemps encore. On en connaît des conflits gelés. Il y en a en Transnistrie, alors, il y en a en Géorgie, etc. etc.
Guillaume.
Xenia Bolchakova, le président Zelensky a fait état d'une contre-offensive à venir. Mais est-ce que l'Ukraine en a les moyens? Est-ce qu'elle peut vraiment espérer reprendre ces territoires du Donbass?
Pour l'instant, c'est assez compliqué, justement. Je pense que ni les Ukrainiens ni les Russes n'ont les moyens, n'ont pas assez d'hommes et pas les moyens techniques. Ce qui se passe, ce qui est assez intéressant en ce moment, c'est plutôt une guerre des symboles qui est en train de se jouer aussi. C'est-à-dire qu'autant le front n'avance pas beaucoup, autant le président Zelensky envoie des petits signaux assez forts à Moscou. Depuis quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu, il y a pas mal de drones qui ont été repérés au-dessus de Yalta, de Sébastopol.
En Crimée, donc.
Et il y a quelques jours, le président ukrainien avait dit la guerre a commencé avec la Crimée, avec l'annexion de la Crimée en 2014, et la guerre se terminera avec le retour de la Crimée en Ukraine.
Donc pour vous, on est toujours dans le conflit de 2014, en fait, qui
perdure. Mais c'est pas pour moi, c'est pour les Ukrainiens. C'est-à-dire que pour Kiev et pour la majorité des Ukrainiens, là, aujourd'hui, on parle de 6 mois de guerre. En réalité, pour ces Ukrainiens, c'est pas 6 mois de guerre. Ça fait plus de 8 ans que la guerre est en train de durer. Donc on n'est pas du tout... La guerre va durer. C'est une guerre d'usure. C'est une guerre qui connaît des pics, qui connaît des phases d'accalmie. Il va sûrement y avoir une phase d'accalmie pendant l'hiver, et ça, c'est sûr. En revanche, cette guerre, elle dure depuis plus de 8 ans. Et ce qui se passe, et ce qui est intéressant avec ce symbole de criméen, justement, c'est que les drones ukrainiens qui ont été aperçus sont repérés par les systèmes de défense aérienne russes qui sont positionnés en Crimée. Émettant des radars, ils repèrent les drones qui sont... Et ces systèmes de défense aérienne sont attaqués à leur tour par les forces ukrainiennes. Ouais. Donc on comprend bien que maintenant... Le gros enjeu, c'est pas d'avancer sur le territoire, c'est d'essayer d'abattre les forces de l'ennemi aussi et les armements, et de s'attaquer à ça.
Anna.
Général Pellistrandi, on assiste quand même à une russification qui est assez importante dans les territoires qui ont été conquis. Est-ce qu'ils sont définitivement perdus pour l'Ukraine, selon vous ?
Alors, là aussi, il faut être prudent, parce qu'il y a le Donbass, qui effectivement est plus proche de la Russie, le sud du côté de Kherson, où on voit qu'il y a une forme de résistance passive de la part des Ukrainiens. On a aussi, par exemple, l'exemple de Kharkiv. Kharkiv, c'est la deuxième ville d'Ukraine, une ville qui était, donc c'est une très grosse agglomération, plus d'un million d'habitants, une ville qui était censée être, enfin qui est russophone, hein, voire russophile, et au final, eh bien, même les russophones sont ukrainiens. Donc il y a aussi le fait que ce conflit a, en quelque sorte, accéléré le processus d'unité nationale, même s'il peut y avoir, bien sûr, des divergences hein, politiques. Donc cette russification qui est imposée par Moscou, elle est extrêmement difficile à mettre en place. Et puis, il va y avoir aussi un enjeu qui est extrêmement important, c'est comment va se dérouler la rentrée scolaire qui est dans quelques jours.
Oui, mais elle est déjà en préparation, les professeurs ont été formés, la russification, voilà. Certes, elle n'est peut-être pas dans les esprits.
Les manuels scolaires arrivent.
Et les manuels scolaires arrivent, il y a des profs ukrainiens qui ont été formés en Russie. Ce qui s'est passé aussi dans la région de Kherson, et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été coupée du réseau mobile ukrainien, on lui a fait passer le réseau criméen, et pour avoir un numéro de téléphone, les habitants de Kherson sont obligés de demander un passeport russe. Alors, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une démarche administrative.
Que les Russes russifient, comme vous l'avez dit, et donc n'ont absolument pas l'intention de se retirer. Donc vous voyez, ça va dans le sens de cette durée. Et alors, on a parlé de la Crimée. Souvenez-vous, juste avant l'invasion, M. Macron avait été voir Poutine et s'était rendu aussi à Kiev. Et à cette époque-là, on avait l'impression que pour avoir la paix, on était prêt, du côté ukrainien, peut-être à sacrifier la Crimée. Et
maintenant, rappelle que la Crimée a été annexée par les Russes en 2014.
Voilà. Elle était annexée. Alors simplement, aujourd'hui, on voit que le président Zelensky vient de citer à nouveau la Crimée comme objectif de victoire. Et donc, ça aggrave... Mais ça montre bien qu'on est déterminé des deux côtés. Alors, et face à ces communes déterminations, on ne voit pas de perspective de paix.
À propos du président russe, Guillaume, demain, c'est le 24 août, et c'est la fête nationale en Ukraine.
Absolument. Et le président Zelensky s'attend, entre guillemets, au pire de la part des Russes à cette occasion. Samedi dernier, il déclarait s'attendre à une initiative, je cite, « dégoûtante ». Écoutez.
Nous devons être conscients que la Russie pourrait essayer de faire quelque chose de particulièrement dégoûtant et de particulièrement violent la semaine prochaine. C'est notre ennemi. Chaque semaine, depuis ces 6 derniers mois, la Russie a fait des choses dégoûtantes et violentes, constamment.
Xenia Bolchakova, est-ce que Volodymyr Zelensky dit tout ce qu'il sait ou est-ce qu'il a une idée derrière la tête de ce que pourrait être cette initiative concrètement des Russes ?
Je ne suis pas dans la tête du président Zelensky, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Il doit avoir un certain nombre de renseignements qui l'ont amené notamment à prévenir la population de la région de Kiev. C'est-à-dire qu'à chaque fois, cette fois-ci, que vous allez entendre une sirène anti-bombardement, il va vraiment falloir aller dans les abris. Moi, j'étais à Kiev fin mai, début juin, dans les rues de la capitale ukrainienne. Ça retentissait régulièrement. Personne n'allait plus aux abris parce qu'on se disait qu'il ne pouvait pas y avoir de frappe. Un des avertissements lancés par le président ukrainien ces derniers jours, c'est de dire il va falloir prendre cette menace très au sérieux et si vous entendez les sirènes, descendez dans les abris. Ouais.
D'ailleurs, Jérôme Bistrandi, les Américains aussi prennent la menace au sérieux puisqu'ils ont appelé au départ de leurs ressortissants en Ukraine.
Oui, le département d'État américain a donc demandé que les Américains qui soient présents quittent immédiatement. Donc quand ils le disent, c'est quand même qu'ils ont des informations sérieuses. Et on le voit d'ailleurs depuis le début de la guerre, voire avant, les informations américaines se sont révélées vraies. Je pense qu'il y a, en fait, s'il y a une possibilité, ça serait autour de Kiev, puisque Kiev a été relativement épargné depuis le printemps, après le retrait plus ou moins forcé des Russes du côté de Boutcha et d'Irpin. La capitale a été peu bombardée. Ça pourrait être effectivement à cette occasion-là, demain, histoire de faire une piqûre de rappel.
Ceci dit, bon, et des victimes civiles, on vient de donner la statistique, je crois que c'est le HCR ou les Nations Unies. Le nombre est effrayant. Donc des actes dégoûtants, comme pour citer le président Zelensky, risquent malheureusement d'arriver. Que ce soit le jour de la fête nationale ou le sixième mois de la guerre ou n'importe quel autre jour.
Oui. Alors on fait à ce que l'on n'a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire c'est un conflit de très haute intensité avec des masses de chars, d'artillerie, des missiles de haute précision. Donc oui, ça peut durer longtemps, mais avec une intensité supérieure à ce que les Soviétiques avaient connu donc en Afghanistan.
Sachant que c'est une puissance nucléaire. Alors on parle d'Afghanistan, mais on pourrait parler de la guerre, des 20 ans de guerre conduits par l'OTAN après les attentats du 11 septembre 2001. Alors c'est toujours l'idée de la durée. Il faut se souvenir d'une guerre qui a duré aussi 10 ans à peu près entre l'Irak de Saddam Hussein et l'Iran de Roménie.
Oui.
Et au bout de 10 ans, ils étaient toujours au même niveau. Il y a eu énormément de morts. On a parlé de plusieurs Verdun, enfin au moins Verdun. Et donc, on peut penser, c'est très dramatique de le dire, que cette guerre ne se terminera peut-être qu'au moment où on se rend compte qu'il n'y a pas de solution militaire. Oui. Il y avoir qu'une solution. Et c'est à ce moment-là que l'ONU, hein, qu'on décrit souvent, est apparu. C'était Pérez de Cuellar, secrétaire général de l'ONU, qui est allé tout seul, sans mandat, à Téhéran et à Bagdad pour dire, bon, maintenant, les héros, guillemets, sont fatigués, il faut penser à la paix.
Guillaume. Est-ce que c'est pas l'intérêt de la Russie, Xenia Bolchakova, que ce conflit s'enlise? Parce que les Ukrainiens, on sait, dépendent très largement de l'aide militaire occidentale. Et les opinions publiques occidentales, surtout si l'hiver est difficile, si le prix de l'énergie augmente, elles peuvent se lasser de cette guerre et de ce soutien.
Ça peut placer Vladimir Poutine en position de force vis-à-vis des Occidentaux. Mais en même temps, il y a encore quelques semaines, il reprochait aux États-Unis de favoriser un conflit qui dure. Il disait c'est à cause des Américains que la guerre n'est toujours pas terminée. Il faut quand même rappeler que le président russe comptait sur une guerre éclair. Ouais. Il pensait prendre Kiev en 3 jours, avancer très vite. Et là, il est très embêté parce que l'armée russe est à bout de souffle. Il y a des conscrits qui ne veulent plus combattre, des soldats qui font défection. Il y a des phases de recrutement actives là, qui sont mises en place en Russie un peu partout dans toutes les villes du pays pour recruter des mercenaires. Le mercenariat qui normalement est illégal dans le pays est devenu quasi totalement légal. On a des billboards dans les rues en disant venez rejoindre ces fiers et forts combattants de la force Wagner ou autre. On a vu se multiplier le nombre de compagnies militaires privées. Il y en avait une avant, il y en a au moins 10 maintenant. Ça recrute à tour de bras. Donc, oui et non.
Oui, général Pélissandre, est-ce qu'on voit aussi, on lit de plus en plus de choses en ce moment sur les défections des soldats de l'armée russe. Est-ce que ça aussi, véritablement, ça peut pénaliser une armée comme celle de Moscou?
Oui, d'autant plus que, on s'aperçoit après avec les témoignages que d'abord, ils pensaient combattre l'OTAN, et puis en fait, ils combattent les Ukrainiens. Or, il y a quand même une relation. Hein,
c'est surtout les nazis ukrainiens qui pensaient combattre
l'OTAN. Donc en fait, ils se rendent compte que ce n'est pas du tout ça, et puis ils n'étaient pas préparés. Ouais. C'est-à-dire que c'était une opération qui devait durer quelques jours, voire quelques semaines. Donc on voit une lassitude, comme vous le disiez très bien, et le problème de recrutement. Et il faut bien, à un moment donné, que Vladimir Poutine rende compte à son opinion publique, même si celle-ci est chauffée à blanc par les ultranationalistes, il y a quand même, effectivement, 80 000 hommes qui sont morts, blessés, prisonniers, disparus. Ça fait quand même beaucoup.
Je voudrais revenir sur le phénomène de lassitude à l'Ouest, j'allais dire. Et ça, les gouvernements en Europe, aux États-Unis même, je reviens des États-Unis pour des motifs privés, mais je me suis rendu compte, certes, il y a des drapeaux ukrainiens, on en voit un peu partout, mais il y a aussi des gens qui se plaignent du prix du gallon de pétrole et qui trouve qu'on dépense quand même beaucoup d'argent pour l'Ukraine. Enfin, je vous dis ce que
j'ai
entendu. Hein, il faut aussi savoir qu'il y a ces élections mid-term dans quelques semaines, début novembre, et qu'on parle du retour de Trump.
Hein. C'est ça.
Or, Trump, c'était quelqu'un qui disait avec Poutine, on peut faire du business.
C'est ça.
Alors, il n'y a pas du tout la position de Biden, alors même qu'il y avait une unanimité républicain et démocrate au début de l'agression russe.
Il y a aussi d'un nouveau groupe formellement créé en Russie qui s'appelle le NRA, la Nouvelle Armée de Libération. C'est un ancien député de la Douma qui s'appelle Ilya Ponomaryov, qui était un député de l'opposition, qui dit avoir créé un groupe justement de résistance russe en Russie contre Vladimir Poutine et qui a revendiqué cet attentat. Alors l'existence de ce groupe, pour l'instant, c'est un petit peu shady, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, mais l'assassinat de la fille Dugin a été revendiqué.
C'est un pays sans
doute. Oui, il y a eu d'ailleurs, avant même les actes de résistance que vous avez cités, par exemple, des cocktails Molotov qui ont été envoyés dans des centres de recrutement des armées dans les différentes provinces. Donc on sent qu'il y a une petite tension qui est en train de se créer. Alors maintenant, va-t-elle se traduire à un niveau plus élevé? En tout cas, on voit bien que Vladimir Poutine doit répondre à son opinion publique.